Alors, cette apologétique va rencontrer quand même un terrain, du moins va se développer dans un contexte quand même favorable, puisque on constate à cette époque, à la fin du 1er siècle, un épuisement de la religion traditionnelle. Le mos maiorum, hein, la manière des anciens, c'est-à-dire les actes de culte. Vous savez, les Romains sont très pragmatiques. Ils s'imaginaient que certains gestes, certains actes marchaient et d'autres pas. Alors du coup, ceux qui marchaient, on les gardait. Voilà. Et tout ça, il y avait une sorte de condensation, de sédimentation de cultes, de superstitions, de choses comme ça, plus ou moins organisées par les autorités. Et ça constituait la religion officielle et en même temps la base de la religion populaire. Hein. Mais dans les élites intellectuelles, on n'accorde plus vraiment de créance à ces cultes. On dit par exemple que enfin, c'est Cicéron qui rapporte que quand deux aruspices, donc vous savez, ceux qui regardent les.
Les esclaves de rire.
Ben, quand ils se croisaient, enfin, ils s'esclaffaient. Oui, ils devaient sourire parce qu'ils étaient bien élevés. Et tellement ils croyaient plus à ce qu'ils faisaient. Enfin. Parce qu'en fait, dans le cursus honorum, les charges religieuses, les charges sacerdotales, faisaient partie du cursus. Donc, si vous voulez devenir consul, etc., sénateur, tout ça, vous deviez passer aussi par les fonctions sacerdotales. Et bon, les gens n'y croyaient pas du tout. Donc dans les élites intellectuelles, la religion traditionnelle, qui a encore de l'importance dans le petit peuple, n'a plus aucune faveur. Et puis, il y avait aussi, du coup, il y avait une tendance au scepticisme. C'est ce qui caractérise ce qu'on a appelé le moyen platonisme, qui est une sorte de. Vous savez, quand Pascal parle du pyrrhonisme dans les pensées, en fait, il fait allusion à ce moyen platonisme où finalement on ne sait plus quoi. Quand saint Paul dit qu'on recherche la divinité à tâtons, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ils savent plus où est ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et donc, il y a une sorte d'agnosticisme des élites romaines. Et alors, donc il y a une pluralité de philosophies. Certains silences, parce que la philosophie à l'époque, c'est vraiment la voie de la sagesse. Donc on cherche par une philosophie à essayer de devenir meilleur. Et puis certains, bah, comme devant la pluralité des philosophies, finissent par donner leur langue au chat et puis à rester prudemment sur le seuil au point de devenir même des matérialistes. Vous avez par exemple tout l'épicurisme, et donc la grande figure romaine, c'est Lucrèce. Hein. Lucrèce et César. Hein.
Oui.
Le divin Jules était aussi un lucrétien, en fait, un matérialiste.
L'épicurisme, c'est quand même moins matérialiste que l'hédonisme. Parce qu'il y a il y a quand même une restriction
Oui.
du
Alors, dans
plaisir.
l'épicurisme, il y a quand même l'idée qu'il faut minimiser le mal.
Voilà.
Et alors, donc, du coup, pour minimiser le mal, il faut éviter certains actes qui finalement nous rendent malheureux. Alors, il y a un peu l'idée d'extinction des passions aussi. Hein. Donc, si vous êtes attiré par rien, c'est sûr que vous souffrirez moins que de désirer quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Hein.
Lucrèce, c'est un sensualisme.
Oui.
C'est une sorte de sensualisme lyrique.
Sensualisme à la remarque de Démocrite, c'est-à-dire en gros un atomisme. Tout se résout en
Oui, c'est ça,
atomes
oui.
et mu par le hasard. Vous savez, on a l'impression de lire des auteurs du XXe siècle, hein, Hopkins. Oui, Hawking.
Bah, Hawking, mais lui,
Oui, c'est
oui,
ça, ou Rostand, des choses comme ça. Jean Rostand, non.
Non, Munod,
Monod.
Monod,
Jacques Monod.
Les Lucrèces sont quand même l'amour humain, enfin, qui s'arrête.
Oui, c'est ça, mais comme il est.
Sensualiste.
Voilà, c'est. C'est le carpe diem, hein, il faut profiter du jour, parce que le lendemain, oui, après on finit dans les ténèbres. Alors, donc voilà, on est... Alors, qu'est-ce que vont faire nos chrétiens ? Eh bien, ils vont essayer de montrer que le christianisme est la vraie philosophie. Et alors ça, c'est assez intéressant, et Ratzinger n'a cessé d'y revenir, c'est que le christianisme, à son origine, n'a pas voulu prendre rang parmi les religions, être une religion de plus. Mais parce qu'il a conscience d'être la religion par excellence, il est le lieu où le logos, la raison divine, eh bien, se manifeste au mieux. Et donc, par conséquent, il ambitionne de prendre rang parmi les philosophies pour montrer qu'il est la philosophie par excellence. Sachant que dans la mentalité antique, la philosophie n'est pas simplement théorique, mais elle est aussi pratique. C'est-à-dire qu'elle est une connaissance qui conduit à un mode de vie. Être philosophe, c'est finalement... En gros, c'est être moine, en fait, on dirait... C'est embrasser un style de vie qui est la mise en pratique des idées qu'on professe. Alors du coup, il y a deux tâches. La première, c'est de répondre aux attaques grossières contre le christianisme en montrant qu'elles ne sont pas justifiées et que du coup, être chrétien, ce n'est pas être un criminel. Donc en mettant fin à toutes ces interprétations erronées du christianisme. Mais ce n'est pas pour autant qu'on sauve le nomen christianum, pour autant, puisque on se dérobe quand même au culte officiel. Donc, c'est de montrer que, finalement, et ça c'est audacieux, que le culte officiel repose sur du vent. Qu'au contraire, si les empereurs étaient vraiment pieux, s'ils voulaient vraiment le bien de l'Empire, il fallait qu'ils deviennent chrétiens, ou que du moins ils favorisent le christianisme, parce que là, on prie la vraie divinité, donc celle qui peut réellement faire quelque chose pour l'Empire. Alors, et donc, comment s'y prendre ? Ben, en montrant la supériorité philosophique du christianisme sur toutes les autres religions, toutes les autres courants de pensée, toutes les autres philosophies. Donc le christianisme est la vera philosophia, et le Christ est le vrai philosophe. Et souvent, d'ailleurs, dans l'iconographie la plus ancienne que nous ayons du Christ, alors on le présente souvent comme un pasteur, un jeune homme imberbe, etc. Voilà. Mais on le représente aussi comme un maître qui enseigne, avec un rouleau, un peu comme un philosophe qui enseigne la vérité. Donc voilà les généralités, convaincre les imposants. Alors maintenant, voyons, petit b, les premières apologies. Alors, on peut dire qu'on n'en a pas tant que ça. Hein. Beaucoup ont été perdus, évidemment, et où ne nous sont pas, qui étaient adressés à des gens qui les ont pas lus, ou qui les ont lus, mais qui les ont pas perdus. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas photocopier, hein, ou sauvegarder le texte qu'on venait d'envoyer. Donc, en plus, n'oubliez pas que les supports matériels coûtent extrêmement cher. Donc, on pourra commencer à écrire des apologies quand le christianisme aura suffisamment d'ampleur aussi pour pouvoir avoir des gens capables de se payer du parchemin ou du papyrus, de l'encre, et puis un secrétaire aussi, parce que la plupart du temps, on dicte. Hein, la plupart de ces apologies sont perdues, mais on a cependant quelques fragments qui nous sont conservés par le précieux Eusèbe de Césarée, dans son histoire ecclésiastique. Alors, la première apologie connue est celle d'un certain Quadratus, qui fut remise à l'empereur Adrien, 120-130 à peu près. Alors, Quadratus, pas impossible que j'en ai un bout là-dedans. Non, je ne l'ai pas. Alors, en revanche, après, on a d'autres personnages dont les noms nous ont été conservés. Miltiade, par exemple. Oui. Ou Apollos de Hierapolis aussi. Apollonius, pardon, de Hierapolis. Méliton de Sardes, qui a aussi composé des homélies, des sermons, etc. Et on remis, eux, des apologies à Marc Aurèle. Donc Marc Aurèle, 160-180. Vous voyez, Adrien, c'est quand même un des empereurs les plus cultivés et un des meilleurs empereurs de la dynastie antonine. Ensuite, Marc Aurèle, encore un grand empereur. Vous vous souvenez peut-être du film... comment ça s'appelle ?
Ils ont lu ces apologies ?
Bah, c'est la question, on ne sait pas vraiment. Ça arrivait au palais, maintenant, ce n'était pas remis en main propre. Pas impossible que des secrétaires ou des conseillers l'aient lu.
Et les premiers chrétiens d'Antioche, c'est beaucoup avant ou après ?
Antioche ? Ah ben Antioche, c'est avant, c'est le premier siège de Saint-Pierre, en fait, hein, c'est les années 50-60, puisqu'on dit que c'est là que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Oui. Troisième ville de l'Empire, ce n'était pas la plus petite. Hein. Et puis on a aussi toutes ces apologies là, de Miltiade, de Méliton, etc., ont été perdues. Il y en a une qui a été adressée à des juifs aussi, d'un juif lui-même, Aristone de Pella. Pella, c'est en...
Ils ont été perdus, mais on connaît leur existence.
Oui, voilà, c'est ça. Mm-hmm. Ou alors, parfois, on a une petite mention par un auteur, voilà, qui a été adressée en 140. Alors, en revanche, on a retrouvé celle de Aristide d'Athènes, et là aussi, au début du XXe siècle, vous voyez, c'est très récent, qui a été adressée à Adrien ou à Antonin, on ne sait pas bien, entre 130 ou 140, où l'auteur... montre que la notion de Dieu est élevée dans le plus élevée dans le christianisme que dans le judaïsme ou le paganisme, et que la vie chrétienne, à cause de la charité, est plus délicate que les mœurs juives ou païennes. Donc vous voyez, il essaie de montrer que le christianisme, en fait, c'est mieux. Moi, j'ai essayé de vous trouver... le passage 256. Alors, on connaissait l'existence de ce texte par Eusèbe de Césarée, mais voyez, donc il a fallu attendre le XXe siècle pour le retrouver. Alors, apparemment, voilà. Donc, un texte adressé par Aristide, philosophe d'Athènes, à l'empereur Adrien. Et ensuite, voilà, Titus Adrianus Antoninus. Donc, Adrien ou Antonin. C'est pour ça qu'on ne sait pas exactement lequel. Voilà. Alors, voilà comment elle commence. L'apologie que fit le philosophe Aristide auprès du roi Adrien au sujet de la religion. Au tout-puissant César Titus Adrien, Antonin, auguste et miséricordieux, de la part de Marcianos Aristide, philosophe d'Athènes. La lettre. Alors, Alors voilà comment ça commence. Moi, ô roi, par la grâce de Dieu, je suis venu en ce monde. Ayant observé le ciel, la terre et les mers, ayant vu le soleil et le reste des structures, je me suis émerveillé de l'agencement du monde. J'ai alors perçu que ce monde et tout ce qu'il contient est mis en mouvement par l'impulsion d'un autre. Et j'ai compris que celui qui met toute chose en mouvement, c'est Dieu, qui est caché en elle et l'aurait inconnu. Or, on sait que celui qui met en mouvement est plus fort que celui qui est mu, et que m'interroger à ce propos sur le mode d'être de celui qui est le moteur de tout, en effet, il me paraît évident qu'il est par nature insaisissable, et refuser la véracité de son économie ainsi qu'en être totalement conscient, cela ne m'apporte rien. Personne, en effet, ne peut être complètement conscient. Alors donc, il montre que finalement, la philosophie est capable de dire que le monde vient d'un principe qui est Dieu, mais qu'elle est bien incapable de dire qui est ce Dieu, etc. Alors voilà, donc ça c'est le premier chapitre, il dit finalement qu'on aboutit à une impasse. Enfin, pas une impasse, mais du moins à une inconnaissance. On cherche la divinité comme à tâtons, comme dit saint Paul. Alors là, il continue. Jusqu'ici, donc, nous vous avons parlé de Dieu autant que notre raison pouvait en parler. Venons-en maintenant au genre humain afin de savoir lesquels parmi les hommes détiennent une part de cette vérité dont nous avons parlé et quels sont ceux qui s'égarent par rapport à elle. Alors là, il va critiquer, il va passer en revue les mythologies, les religions, etc. Puis, évidemment, il va parler des Juifs. Donc il dit, voilà, il vous est manifeste au roi qu'il y a quatre races d'hommes en ce monde, les barbares et les Grecs, les Juifs et les chrétiens. Voilà. Bon, alors, du coup, les barbares... voilà. Quant aux Grecs, voilà, il rapporte quelques trucs mythologiques. Et puis après, il parle des Juifs qui imputent l'origine de leur race à Abraham, celui qui engendra Isaac, duquel naquit Jacob, celui qui engendra 12 fils qui migrèrent de Syrie en Égypte. C'est là qu'ils furent appelés race des Hébreux, par celui qui fut leur législateur, puis finalement les nomma juifs. Quant aux chrétiens, ils comptent le commencement de leur religion à partir de Jésus-Christ. C'est lui que l'on nomme fils du Dieu Très-Haut. Ils disent que Dieu est descendu du ciel, que c'est d'une vierge des Hébreux qu'il a endossé et revêtu chair, et que le fils de Dieu a habité dans une fille d'homme. C'est ce qui est dit chez eux depuis quelque temps par l'évangile qui est prêché comme enseignement, et dont vous aussi comprendrez la force qu'il recèle si vous le lisez. Pas sûr qu'il l'ait lu. Hein. Or donc, ce Jésus est né de la tribu des Hébreux, puis il a eu 12 disciples afin d'accomplir quelques siennes économies. C'est lui qui a été percé de clous par les Juifs, est mort et a été enseveli, et ils disent qu'après 3 jours, il ressuscita et monta aux cieux. Puis ses 12 disciples se rendirent dans les parties connues du monde pour y enseigner sa grandeur toute d'humilité et de probité. C'est encore pour cela qu'aujourd'hui, ceux qui croient à cette prédication sont appelés chrétiens, c'est-à-dire alors, illustres. Il existe donc 4 races d'hommes, comme je l'ai dit précédemment. Bon, etc. Alors après, il reparle des barbares, en disant que leur... il va revenir encore, après avoir, pendant des paragraphes et des paragraphes, critiqué toutes les généalogies des païens, leur culte et leur mythe. Alors, pendant des pages et des pages, il va revenir sur les chrétiens. Or, les chrétiens, au roi, dans leurs errances pour la chercher, ont trouvé la vérité. Et ainsi que leurs livres nous l'ont fait percevoir, ceux-là sont plus proches de la vérité et de la connaissance exacte que le reste des peuples. En effet, ils connaissent Dieu et ils croient en lui qui a fait le ciel et la terre, en qui tout est et qui partout est. Lui qui n'a pas d'autre Dieu pour compagnon, donc contre le polythéisme, lui dont ils ont reçu les commandements qu'ils ont inscrits sur leur conscience, donc ils ont une conscience morale, et qu'ils observent dans l'espérance et l'attente du monde à venir, donc il y a une rétribution, vous voyez. C'est pour cela qu'ils ne commettent ni adultère, ni fornication, qu'ils ne portent pas de témoignages mensongers, qu'ils ne retiennent pas un dépôt, ni ne convoitent ce qui n'est pas à eux, qu'ils honorent père et mère et font du bien à ceux qui leur sont proches. Lorsqu'ils sont juges, ils jugent avec droiture. Ils n'adorent pas d'idole à forme humaine. Ce qu'ils ne veulent pas que les autres leur fassent, ils ne le pratiquent envers personne. Ils ne mangent pas de nourriture venant des sacrifices aux idoles. Ils sont purs en effet. Bon, voilà. Ceux qui sont affligés les consolent et leur donnent de l'affection. Quant à leurs ennemis, ils leur font du bien. Alors, leurs femmes, au roi, sont aussi pures que des vierges, et leurs filles sont sérieuses. Leurs hommes se réfrènent de toute union illégitime et de toute souillure, avec l'espérance de la rétribution à venir dans l'autre monde. Quant aux esclaves, aux servantes ou aux enfants, si l'un d'eux en a, ils les convainquent de devenir chrétiens par l'amour qu'ils ont à leur égard. Et lorsqu'ils le sont, ils les appellent frères sans hésiter. Voilà. Ils n'adorent pas de dieux étrangers, ils se conduisent en toute humilité et douceur, on ne trouve pas de mensonges entre eux, et ils s'aiment les uns les autres. Ils ne détournent pas leur regard des veuves, ils délivrent l'orphelin, etc., etc. Donc, finalement, il va montrer que la communauté chrétienne est beaucoup plus... beaucoup meilleure, beaucoup plus sociale, en quelque sorte, beaucoup plus... voilà. Elle est vraiment la base d'un état juste. Alors que, dans les pages précédentes, il a critiqué l'impiété, l'immoralité, l'égoïsme des païens et leur violence, leur cruauté, etc. Alors, et donc, il va terminer en disant... alors, voilà. Alors, il dit « Jusqu'à maintenant, au roi, c'est moi qui ai parlé. Quant au reste, en effet, il est dit plus haut, on trouve dans leurs autres livres des paroles qu'il est difficile d'énoncer, bon, etc., etc. Or, les Grecs au roi, parce qu'ils ont des pratiques honteuses, etc., retournent contre les chrétiens le ridicule lié à leur impureté. Or, les chrétiens sont droits et pieux. La vérité est placée devant leurs yeux et ils sont longanimes. Et c'est pour cela que, connaissant l'égarement de ces gens-là et subissant leurs insultes, ils les supportent et les endurent, et surtout qu'ils ont pitié d'eux comme de gens à qui manque la connaissance. C'est pour eux qu'ils offrent leurs prières, afin qu'ils se convertissent de leur égarement. Car lorsqu'il arrive à l'un d'entre eux de se convertir, les chrétiens lui font éprouver du remords pour les méfaits qu'il a commis, tandis que lui loue Dieu en disant « C'est par méconnaissance que j'ai commis cela ». Voilà, etc. Il se purifie le cœur et ses péchés lui sont remis parce que c'est par méconnaissance qu'il les avait commis auparavant, du temps où il blasphémait et maudissait la vraie connaissance des chrétiens. Vraiment, bienheureuse la race des chrétiens, plus que celle de tous les humains qui sont sur la surface de la terre. »